Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Les différentes communautés des provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu sont à Kinshasa depuis vendredi dernier pour rencontrer les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est afin d'accompagner les processus de Nairobi et la résolution des conflits dans la partie Est de la RDC. Les consultations ont eu lieu hier lundi au fleuve Congo Hôtel. À tour de rôle, les facilitateurs ont rencontré les communautés du Sud Kivu, de l'Ituri et du Nord Kivu. Et à l'issue de cette rencontre, les facilitateurs sont davantage mieux armés pour trouver des solutions aux multiples conflits qui sévissent dans la partie Est de la RDC. Que pensez-vous des rencontres entre les communautés, notamment Lendu, Emma, Nande, Hutu, Banyamulenge, ainsi que les Babembe et les facilitateurs? Celles-ci peuvent aboutir à une issue favorable de la résolution des conflits de l'Est et de la RDC. C'est l'objet du débat de ce soir qui connaîtra la participation de Mme Irène Waweka et le point focal du processus de Nairobi pour l'Ituri. Bonsoir Mme Irène Waweka.
Bonsoir.
Madame Nene Bintou Mudekereza, qui n'est pas encore là avec nous, mais elle va nous rejoindre, elle est le point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Et l'abbé Aurélien Kambalé, point focal du processus de Nairobi pour le Nord Kivu. Bonsoir, monsieur l'abbé Aurélien Kambalé.
Bonsoir.
Bienvenue à tous une fois de plus dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, pré-consultation du processus de paix de Nairobi 3, l'ancien président du Kenya, désigné facilitateur du processus de Nairobi par la communauté de l'Afrique et de l'Est, a reçu ce lundi la classe politique congolaise notamment, les deux chambres du Parlement ainsi que les représentants des différentes communautés venues du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Uhuru Kenyatta a reçu ses différents partenaires pour ensemble définir les pistes de solutions aux problèmes de l'insécurité dans l'Est du pays. Ceci avant les travaux proprement dits de Nairobi 3 qui vont reprendre dans quelques jours. Pour Evariste Mfaume, acteur de la société civile et point focal du processus de Nairobi dans la partie sud de Sud Kivu, qui s'est exprimé à Radio Kapi après l'audience d'hier, il est temps d'analyser les causes profondes de l'insécurité pour espérer à une paix durable dans la région. On l'écoute au micro de Grace Amzati.
L'idée centrale, par exemple, en termes de recommandations, c'est de demander aux facilitateurs de l'EAC d'avoir un groupe de travail, parce que c'est un conflit qui a beaucoup de complexité et qui demande beaucoup d'analyse, beaucoup de lucidité, pour essayer d'accompagner les Congolais et les États de la région à aller vers des solutions durables de paix, de stabilité et de développement. L'autre recommandation était d'associer les acteurs de la société civile, les communautés, comme on l'a fait, dans un partenariat développer pour que les questions de paix ne se limitent pas seulement à la participation de groupes armés, mais intègrent aussi des acteurs clés qui vivent au quotidien les affres de la guerre, qui sont des victimes directes de conflits. J'espère fortement à la paix parce que plus on essaye de décortiquer toute la problématique, on essaie de comprendre les causes les plus profondes, les causes sous-jacentes du conflit, parce que ça c'est la condition première de commencer à chercher du remède à ces conflits.
Madame Irène Waweka, on va commencer avec vous. Je rappelle que vous êtes point focal du processus de Nairobi pour l'Ituri. D'abord, un mot par rapport à cette initiative qui consiste à consulter les communautés locales au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC.
Je pense que c'est quelque chose à féliciter parce qu'il était important que le facilitateur désigné par l'EAC puisse consulter la communauté à la base afin de s'imprégner de la vraie situation sécuritaire, mais surtout attendre de cette délégation des provinces, des recommandations ainsi que des attentes afin de préparer Nairobi 3.
Qu'est-ce qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de vos consultations avec les facilitateurs et, ou est-ce qu'il y a eu des recommandations, est-ce qu'il y a eu des résolutions et, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces consultations?
C'est vrai que les communautés ont versé des attentes et des recommandations, mais ce que j'ai trouvé de très important, c'est le message que le facilitateur, l'ancien président honoraire du Kenya, qui a sollicité, a demandé à la population, c'est-à-dire à la communauté, ainsi qu'aux provinces, que eux, ils ne sont pas venus, c'est-à-dire lui-même n'est pas venu donner la paix aux provinces, mais plutôt échanger avec les provinces, et surtout, il a recommandé aux provinces de s'impliquer eux-mêmes avec des initiatives au niveau local, ainsi que se réunir entre eux, parce que si nous-mêmes, Congolais, nous vivons en province, nous vivons dans notre pays, nous avons des initiatives de paix, et eux, ils ne peuvent qu'accompagner et appuyer ce genre d'initiatives.
Par rapport à cette problématique des groupes armés, hein, les groupes armés ont toujours justifié, n'est-ce pas, leur attitude en affirmant qu'ils prennent les armes pour protéger leurs différentes communautés. Vous êtes souvent avec ces différentes communautés, vous les consultez souvent. Et est-ce qu'elles reconnaissent qu'effectivement elles envoient, n'est-ce pas, ces groupes armés? Et est-ce qu'elles confirment les différentes allégations de ces groupes armés sur les raisons qui les poussent à prendre des armes?
Jusque là, on n'a pas pu échanger avec les communautés sur les vraies raisons qui ont poussé les groupes armés à prendre des armes. Mais quand même, nous avons échangé avec les groupes armés. Il y a eu des dialogues intra-communautaires, groupes armés et leurs communautés, où nous avons eu à écouter les groupes armés et passer le message du chef de l'État. Eux tous disent d'avoir pris des armes pour l'autodéfense, protéger la communauté, mais l'observation est tout autre quand on voit que cette milice qui, soi-disant, prétendue protéger la population, tue cette même population. Mais la communauté à son niveau, je crois, s'il faut un aperçu, ne maîtrise pas et ne comprend pas les vrais objectifs, la vraie motivation et les causes. Et je crois que même avec l'intervention d'Evariste, les communautés se sont posées la question, quelles sont les vraies causes?
Et donc on peut dire que les communautés ne se reconnaissent pas dans ces groupes armés?
Effectivement.
Voilà. Monsieur l'abbé Aurélien Kambale, vous êtes point focal du processus de Nairobi pour le Nord Kivu. Vous aussi, qu'est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ces consultations entre les communautés locales et les présidents Uhuru Kenyatta?
Tout d'abord, nous avons été agréablement surpris de voir que le président Uhuru Kenyatta se préoccupe de notre sort qui est marqué par une insécurité récurrente et qui a fait tant de victimes et tant de souffrances. Cette ouverture-là est déjà pour nous un signe positif qui montre que nous ne sommes pas seuls dans cette situation qui nous agace, qui nous assaille. Et le fait qu'il soit venu, et qu'il ait dit lui-même, surtout en tout cas à notre délégation, qu'il ne vient pas imposer la paix, mais qu'il vient la construire avec les bénéficiaires, dont notamment les communautés qu'il a reçues, cela nous a encouragés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'imposer une solution d'en haut, mais de la rechercher dans un processus qu'on doit tenir ensemble avec les communautés qui sont censées attendre impatiemment cette paix durable. Ça nous a rassurés, parce qu'on ne peut pas faire la paix sans les bénéficiaires, sans écouter ceux-là qui souffrent des atrocités de cette absence de paix. Et ça, pour nous, c'est déjà un signe qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose d'en haut, mais de la construire à partir de la base avec les concernés.
Faire la paix avec ceux qui souffrent, c'est-à-dire les victimes, mais aussi faire la paix avec ceux-là, n'est-ce pas, qui prennent les armes et qui font souffrir leur communauté.
Bien évidemment, dans cette carence de paix, il y a des acteurs, des gens qui font que cette paix ne soit pas au rendez-vous, qui la perturbe. Les cas échéants, ce sont des groupes armés. Ce qui fait que pour nous, nous avons, parmi les recommandations que nous avons partagées avec les facilitateurs, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait bien identifier ces groupes armés, tant locaux qu'étrangers. C'est-à-dire savoir ce qui les a poussés à pouvoir prendre les armes afin de pouvoir soigner quelque chose qu'on connaît. Parce que si on ne connaît pas une maladie, on ne sait pas non plus bien la soigner. Il faut savoir quels sont ces groupes armés-là, et puis les raisons qui les ont poussés, qui les ont motivés à prendre les armes, à perturber la paix. Mais d'emblée, il faut savoir qu'il n'y a aucune communauté qui se reconnaît avoir mandaté telle ou telle autre personne, tel ou tel autre groupe, prendre les armes à son compte. Souvent, ce sont des choses qui naissent par des initiatives incontrôlées et qui même, des fois, se retournent contre la communauté qu'on prétend défendre. Et donc, je ne pourrais pas mettre une équation simpliste entre groupe armé et telle communauté. C'est pour cela que nous avons suggéré aux facilitateurs, et cela rejoint, je pense, la préoccupation d'Evariste, qu'il faudrait un groupe d'experts qui puisse accompagner les facilitateurs pour l'aider à bien cerner le problème. Parce qu'autrement, on risque de lui proposer des solutions qui passent à côté parce qu'ils n'ayant pas bien identifié le problème. Et le cas échéant, il s'agit de voir la genèse, la motivation et même l'encadrement de ces groupes armés pour pouvoir y apporter une solution qui puisse être une solution appropriée et adéquate.
Et donc, on se tromperait si on affirmait aujourd'hui que les différentes communautés se reconnaissent, soutiennent les groupes armés et vice-versa?
Je dirais que ce serait simpliste. Ce serait ne pas faire preuve d'un effort pour pouvoir rechercher vraiment la vraie cause. C'est souvent, on le fait en raccourci. Et ce faisant, au risque de se tromper, il faudrait étudier. Je ne vois pas une communauté. Une communauté, c'est d'abord un ensemble de plusieurs personnes qui se réduirait à un groupe de gens qui prétendent prendre les armes à son nom. Qui l'a mandaté? Qui l'a fait? Quand on ne sait même pas vraiment du point de vue démocratique faire qu'une décision qui soit prise à l'Assemblée nationale soit le reflet du point de vue de tout le monde, a fortiori pour une communauté comme ça, des gens qui, dans leur processus de mise en œuvre des choses, vous constatez que ces groupes armés-là, des fois, font aussi du tort à cette même communauté-là.
Alors, s'il est difficile d'établir un lien entre les groupes armés et leur communauté, à quoi aurait servi cette rencontre entre les différentes communautés et M. Ouro? Parce que, logiquement, et de prime abord, lorsqu'on voit ce qui s'est passé, on s'est dit certainement que les facilitateurs chercheraient, n'est-ce pas, à entrer en contact avec les différents groupes armés à travers leur communauté. S'il n'y a pas de lien, à quoi auraient servi ces consultations entre vous, les communautés, et M. Ouro?
Ça peut lui avoir, disons, avoir aidé le facilitateur à comprendre la complexité de l'existence de groupes armés. Et c'est là le préviendrait de ne pas tomber dans des considérations simplistes ou réductrices. Il faudrait donc étudier bien cette question-là pour pouvoir la comprendre dans sa juste valeur et ne pas lui prêter des intentions qui seraient fausses et qui, du coup, risqueraient d'induire les gens en erreur dans la proposition de solutions qu'on devrait faire par rapport à cette situation-là. Au moins ça, c'est quand même vrai. Et puis, ça permet comme aussi avoir l'ouverture de communautés qui souffrent beaucoup même de ces groupes armés-là et qui donc cherchent aussi à dépasser ces groupes armés-là par une proposition qui vienne des autorités et qui puisse permettre à ce que la paix soit au rendez-vous sans ces groupes armés, parce que il faut dire que l'existence de groupes armés est aussi un signe quelque part que l'État n'est pas au rendez-vous.
Et donc il y a un problème du déficit de l'autorité de l'État.
De la précarité, de la fragilité de l'autorité de l'État, parce que dans un pays où il y a des forces de l'ordre de défense, personne ne peut prétendre faire l'ordre à la place de ceux-là qui ont le mandat public de l'État de faire cet ordre-là. Et si quelqu'un le ferait, même au nom d'une communauté, l'État devrait se hisser au-dessus de cette personne ou de ce groupe-là pour pouvoir imposer l'ordre public, qui est l'ordre qui facilite la cohabitation, la coexistence entre tout le monde dans un État donné.
Madame Irène Waweka, vous avez dit qu'il y a eu certaines résolutions, certaines recommandations, et vous avez même évoqué un message fort du président Uhuru qui dit qu'il ne vient pas, n'est-ce pas, ici imposer la logique, mais il souhaiterait que les communautés puissent s'approprier cette question, s'approprier cette démarche, cette approche. Alors, après avoir réfléchi avec lui des différentes recommandations, résolutions, qu'est-ce que vous allez faire, n'est-ce pas, à la base, pour que vous puissiez impliquer les différentes communautés ainsi que, n'est-ce pas, les différents groupes armés pour qu'elles arrivent, n'est-ce pas, à s'approprier les idées ou les résolutions, les recommandations formulées à l'issue de cette rencontre?
Ben, c'est vrai que Nairobi 3, c'est pour très bientôt, mais au-delà de ça, il a été prévu plusieurs autres activités à la base au niveau des territoires, notamment pour la province de l'Ituri, pour essayer d'informer ce qu'est le processus de Nairobi. Nous avons commencé avec quelques leaders communautaires, même avec la délégation qui est venue, nous leur avons mis au parfum, expliqué ce qu'est le processus, mais il est prévu aussi une activité de communication, afin de, à travers les radios, descendre aux leaders politiques, communautaires, les chefs coutumiers, les jeunes et les femmes, afin de parler du processus de Nairobi, mais aussi recueillir d'autres recommandations. Nairobi 3, c'est sûr qu'il y aura d'autres processus qui vont s'en suivre après Nairobi 3, parce que pour arriver à la paix, c'est pas juste après Nairobi 3 et puis il y a cessé le feu et tout change. Je pense que nous allons avoir ce temps de descendre sur terrain et surtout pour vulgariser le processus de Nairobi et aussi impliquer les communautés à travers leurs attentes et recommandations.
Oui, vous venez de la base. Quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain, vous pensez que les différents chefs coutumiers pourraient avoir une certaine influence sur les groupes armés? Est-ce qu'à certains points de vue, ces chefs coutumiers peuvent aussi, n'est-ce pas, prendre des initiatives, contacter ces groupes armés et les groupes armés accepter, n'est-ce pas, les propositions qui leur ont été faites par les différents chefs coutumiers?
Là, je rejoins l'intervention de l'abbé Aurélien qui a montré la faiblesse de l'État. Et aujourd'hui, nous constatons au niveau de la province de l'Ituri où il y a même des groupes armés qui tuent les chefs coutumiers, qui enlèvent les chefs coutumiers. Je pense que l'implication seule des chefs coutumiers ne va pas arriver à convaincre les groupes armés à déposer les armes, mais il faut plutôt qu'il y ait un appui, un accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut que l'État, l'EAC, se mette derrière les chefs coutumiers et ensemble, qu'on puisse aller vers ces enfants égarés et puis qu'on essaie d'échanger, de leur convaincre que nous devons tous réfléchir pour la paix.
Madame Irène Ouvaweka, nous allons aussi donner la parole aux auditeurs qui sont en train d'appeler pour donner leur point de vue. Et vous allez, Madame Irène Ouvaweka, réagir à cette réflexion de l'auditeur Albert qui nous appelle, je pense, de Kinshasa. Non, de Kisangani. Voilà, Albert de Kisangani.
Albert Kolembela Bokomba depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Je félicite la rencontre entre les communautés Lendu, Ema, Nande, Hutu, Banyamulenge et Bambembe, car ils sont à la fois les acteurs et les victimes des atrocités que le pays subit depuis plusieurs décennies. Bien que les pays voisins complotent contre la République, nous devons savoir que cela est appuyé en grande partie par nos frères des communautés précitées. À mon avis, nos frères des différentes communautés qui prennent part à ces entretiens doivent d'abord dire les vraies revendications de leurs frères que le gouvernement n'arrive pas à résoudre pour qu'ils complotent avec le Rwanda et d'autres pays voisins pour mettre le pays à genoux. Tant que nous ne sommes pas sincères envers nous-mêmes, il serait difficile de résoudre cette situation qui nous met dans une situation difficile.
Madame Irène Voyka.
Je pense que son intervention, que je remercie et j'apprécie, mais je trouve qu'il est allé directement aux accusations. Et je pense qu'il est important, comme nous avons dit si haut, qu'il faut vraiment quelques enquêtes avec des experts pour vraiment comprendre les vraies raisons, les causes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut impliquer les Nandes et les Banyabouiches, mais quelles sont les causes? D'où viennent les armes? Il y a une circulation d'armes, les communautés ne produisent pas. Au pays, nous ne produisons pas des armes. Au-delà de l'aspect communautaire, il y a un autre aspect plus profond que nous ne maîtrisons pas. Je pense que maintenant, aller dans des accusations sans preuve, c'est assez risqué.
Voilà, donc là, on ne sait pas qui arme ces miliciens, qui les finance, qui les encadre. Tout ça, les communautés peuvent dire qu'elles ne connaissent pas.
Oui, effectivement, elles ne connaissent pas. Et aussi, elles sont victimes. Et sont en même temps victimes. Je dis pas, je peux pas généraliser que toutes les communautés ou dans la population, toute personne ignore. Il y a certains, bien sûr, parce qu'il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques qui sont en jeu. Et nous n'allons pas généraliser pour dire toutes les communautés ou toute la population de l'Ituri ne maîtrise pas d'où viennent ces armes. Certains oui, mais je pense qu'avec l'étude profonde, nous saurons identifier ces personnes, mais aussi ces tireurs de ficelles, parce que les questions se posent, l'intérêt économique, qui tire les ficelles, qui appuie, pour quel intérêt?
Oui, monsieur l'abbé Aurélien, il y a aussi un auditeur qui vous pose une question, qui réfléchit, hein, vous allez réagir à sa réflexion, il s'appelle Serge, il l'appelle depuis la ville de Kinshasa.
Serge, depuis Kinshasa, Barumbo. Cette rencontre entre les facilitateurs kenyans et les communautés locales de la partie est du pays ne peut donner qu'un morne dans la mesure où les problèmes locaux ne peuvent être résolus efficacement que par les leaders locaux sous l'encadrement des acteurs politiques et des services de sécurité du pays. Les diplomates kenyans devraient plutôt s'entretenir avec nos agresseurs et leurs partenaires clés qui sont très bien connus au pays tout comme à l'extérieur.
Monsieur l'abbé Aurélien Kambalé.
Je dirais que le point de vue que vient de nous partager l'intervenant, l'interlocuteur là, celui qui a appelé, souligne ou montre correctement que ce processus est complexe. On ne peut pas dire, je disais tantôt qu'il est tout à fait contre-indiqué de pouvoir identifier les groupes armés à une communauté, comme si la communauté avait mandaté un groupe armé, mais cela ne n'empêche pas de souligner quand même qu'il y aurait des complicités internes, locales, par certaines personnes. Et il reviendrait, de mon point de vue, au médiateur ainsi qu'à l'État congolais de pouvoir cerner ces complicités internes et de pouvoir les aborder. Parce que le processus, comme l'a souligné le président Uhuru Kenyatta, doit être inclusif. Il ne faudrait pas qu'on laisse quelque part quelqu'un qui serait mécontent et qui après pourrait encore revenir pour perturber la paix qu'on a essayé de rechercher par tant de mécanismes.
Processus inclusif, vous connaissez la position du gouvernement actuellement qui considère le M23 comme étant un mouvement terroriste. Donc, pour le gouvernement, on ne peut pas parler avec le M23.
Exactement. Il y a eu des conditions qui ont fait que le gouvernement ait exclu le M23 de la table du dialogue. Parce qu'on ne peut pas dialoguer et en même temps prendre les armes. Il faudrait, si on vient dialoguer, qu'on cesse de prendre les armes, de tuer ses frères et sœurs. Si on est dans un État, on est fils de cet État-là, si on le prétend, il faudrait qu'on ait quand même un sentiment aussi adéquat par rapport à ça. Donc on ne peut pas revendiquer une chose de son contraire. Si on veut la paix, on s'assoit, il peut y avoir des revendications, on les dit, on en discute, on en parle, et sous le regard d'un facilitateur qui est neutre, on pourra toujours trouver un compromis, des solutions qui puissent faire en sorte que nous puissions vivre ensemble. Mais on ne peut pas vraiment, je ne pense pas, en tout cas ce n'est pas ma conviction, de prendre les armes, de tuer les gens, de créer tant de souffrances et dire par là, espérer vraiment rejoindre, trouver une réponse à ces revendications. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, quand on parle de l'inclusivité, il y a quand même un seuil d'humanité qu'on doit sauvegarder, qu'on doit avoir pour pouvoir s'asseoir ensemble et puis parler. Mais si ces conditions-là ne sont pas réunies, c'est encore quelque chose de préalable qu'il faudrait d'abord rechercher avant de pouvoir continuer ensemble.
Madame Boyka, à votre avis, parce que lorsque les gens voient ce qui s'est passé ici à Kinshasa hier avec les facilitateurs, le président Kenyatta, la première question, est-ce que cette approche pourra aider la RDC à retrouver la paix dans sa partie est? Est-ce que vous pensez que les consultations qui ont eu lieu hier pourraient nous aider, n'est-ce pas, à rétablir la paix dans notre partie est?
Effectivement, je pense que oui, dans le sens où c'est important d'avoir les éléments de base, c'est-à-dire les provinces, les communautés qui vivent les atrocités au quotidien, c'est important de les écouter et de puiser leurs recommandations, parce que quand on organise une activité, il faut préparer cette activité. Et pour la réussite de cette activité, il fallait rencontrer les vrais problème, comprendre la vraie situation, et je pense que ça a aidé le facilitateur à aller réunir l'équipe et enfin de bien préparer Nairobi 3. Mais aussi, je pense que l'implication que le facilitateur a donnée aux communautés, les recommandations que les communautés s'approprient le processus, que les communautés aient des initiatives de rencontres, d'échanges, de pardon, de vivre ensemble pour aller vers la paix. Je pense que ce genre de message pourra être un élément déclencheur pour permettre à ce que nous, communautés, nous Congolais, qu'on prenne conscience que la paix en Ituri doit venir de nous et non pas l'attendre des autres.
Alors, que pensez-vous de l'idée de cet auditeur qui a appelé depuis Kinshasa et qui a estimé que les facilitateurs Kenyatta devaient commencer d'abord par parler avec les pays qui est considéré comme étant les pays qui agressent la RDC, c'est-à-dire les Rwanda?
Nous avons aussi, dans notre recommandation, adressé une recommandation semblable aux facilitateurs pour dire qu'on l'a demandé de plaider. Parce que beaucoup de ces pays facilitateurs font membre de l'EAC, notamment le Rwanda, l'Ouganda font membre de l'EAC. Et nous avons recommandé, nous, la province de l'Ituri, aux facilitateurs de plaider pour qu'il y ait un échange, qu'il y ait respect des frontières, respect de l'autre. Je pense que nous avons donné aux facilitateurs cette recommandation afin d'aider à ce qu'il y ait une bonne collaboration entre les pays voisins et surtout les pays qui sont membres de l'EAC.
Monsieur l'abbé Aurélien Kambalé, les consultations qui ont été initiées par le président Uhuru Kenyatta pourraient apporter quoi? Qu'est-ce que ça peut amener comme changement sur le terrain? Est-ce que ça peut apporter une nouvelle donne? Ça peut faire bouger les lignes sur le terrain?
Vous savez, celui qui est dans une situation de détresse, il essaie de s'accrocher à quelque chose qui le fait espérer. Et il y a justement des choses qui peuvent tromper, mais il y a comme aussi des signes qui peuvent donner soutenir notre espérance de façon beaucoup plus encore consistante. Ce processus de Nairobi, en fait, a deux volets. Il y a un volet politique, de dialogue, mais aussi un volet militaire. Et dans ce contexte-là, il faut dire que l'écoute des communautés a consisté à attendre, à écouter, disons, leurs attentes, mais aussi leurs recommandations. Il y a eu, dans ce sens-là, des préalables qu'on a suggérés aux facilitateurs pour que nous puissions tous cheminer ensemble. Il y a des choses qui devront être faites au niveau interne par rapport à nous-mêmes, parce qu'on ne fera pas la paix sans nous. Mais aussi, dans notre contexte sous-régional, nous savons que la paix ne dépend pas que de nous à l'intérieur du Congo, surtout à l'est du Congo. Il y a aussi nos voisins tout proches qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre dans cette paix, souvent aussi de façon négative. Et nous avons suggéré, et ça j'ai été surpris qu'il y ait une certaine convergence entre les trois provinces pour revendiquer la même chose. On a demandé qu'il y ait des dialogues internes dans certains pays voisins, notamment pour ne pas les citer, le Rwanda, avec le FDLR, pour que cette cause soit vidée une fois pour toutes, en la prenant de façon responsable, là où elle doit être prise, c'est-à-dire au Rwanda. On a suggéré aussi que l'engagement d'un pays comme l'Ouganda soit de plus en plus sincère et cesse d'être hypocrite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas aider d'un côté, vous aider à combattre les ADF, mais en même temps, vous êtes soupçonné de soutenir le M23 du côté de Rutshuru. Tout cela a été dit de façon claire pour que nos voisins aussi, s'ils veulent que nous vivions en paix, je pense que ça sera aussi leur souhait, parce qu'on ne peut pas vivre en éternel état de guerre, ça ne sert à rien, sinon on ne sera pas tous développés, sinon on ne sera pas tous définir tous comme des idiots ensemble. Il va falloir qu'eux aussi nous aident à bâtir cette paix en se remettant en question, comme nous-mêmes de l'intérieur, nous devons nous remettre en question pour la bâtir ensemble. Et les facilitateurs sont à l'écoute de toutes ces initiatives-là pour pouvoir les canaliser ensemble avec ceux-là qui prendront part au nom des communautés, au nom de nos États, à ce processus avec Nairobi 3, qui j'espère ne sera pas la dernière étape, qui devra ouvrir encore à d'autres États pour pouvoir poursuivre ce processus de l'édification de la paix dans notre sous-région.
Merci. La réalisation me signale que nous avons Maître Néné Bintou Moudekereza. Maître Néné Bintou Moudekereza, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, Guimaté.
Voilà, bonsoir.
Bonsoir, Guimaté.
Je rappelle que vous êtes point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Et oui. Que pensez-vous de cette approche, de cette initiative prise par les facilitateurs Uhuru Kenyatta? L'initiative qui consiste, n'est-ce pas, à consulter les différentes communautés locales.
Oui, nous avons aimé cette approche-là, parce que quand il y a une Nairobi 1, et même Nairobi 2, il n'y avait pas les communautés. Et donc, c'était seulement les chefs d'État et de gouvernement, et puis les groupes armés. Et en intégrant l'approche de la communauté, c'est une bonne approche, parce que c'est une approche basée sur les réalités locales. Donc, on ne doit pas continuer seulement à tendre la main aux groupes armés ou à développer des processus de réinsertion, de désarmement, de démobilisation des groupes armés en oubliant les victimes. Et donc pour nous, notre cri, c'est le cri des victimes, c'est le cri de besoin de justice et de paix, c'est le cri d'équité pour que la paix puisse être durable. Et puis nous avons clairement dit aux facilitateurs que nous, comme population du Sud Kivu, nous ne sommes pas d'accord avec les dialogues avec les terroristes, parce qu'il y a une certaine opinion qui voudrait à ce que on puisse de nouveau tendre la main aux terroristes du M23, et on sait comment ça se termine. À un moment donné, ils vont exiger l'amnistie, ils vont exiger la reconnaissance des grades, ils vont exiger la réinsertion au sein des FARDC. Et on ira toujours des cycles de violence en cycle de violence. Donc pour nous, l'approche actuelle qui est celle de traquer définitivement les M23 supplétifs du Rwanda, c'est une approche que la population soutient. Et au même moment, la population déplore l'hypocrisie de la communauté internationale, parce qu'on sait que quand un État est agressé, il doit se défendre. La RDC est membre de l'EAC. La RDC est membre des Nations Unies, mais la RDC aussi est signataire de l'accord de paix d'Addis Abeba. D'ailleurs, l'accord de paix d'Addis Abeba a été signé au sujet de la RDC. et consacre les principes de l'intégrité des territoires, la non-agression. Mais on s'étonne de voir qu'il y a des États, comme le Rwanda et l'Ouganda, qui se permettent d'agresser la RDC. Les rapports des Nations Unies sont éloquents à ce sujet, mais qu'il n'y ait aucune condamnation officielle et de la part de l'EAC et de la part des Nations Unies et de la part de l'Union africaine. Et donc ça montre combien de fois la RDC est victime d'un complot international que nous avons dénoncé. Quand il y a eu génocide au Rwanda, on a tué 800 000 personnes payées à leurs âmes. Mais il y a eu le tribunal international pour le Rwanda. Il y a eu beaucoup de projets de réparation pour restaurer les victimes dans leur état. Mais du côté du Congo, on a comme l'impression que les 12 millions sont des mouches ou de, je sais pas moi, de quoi, donc qui attirent l'attention des personnes.
Voilà, madame Maître Néné Bintou Moudé-Kereza, s'il faut parler, n'est-ce pas, de l'aspect interne de la question. Vous êtes point focal du processus de Nairobi pour le Sud Kivu. Nous avons les deux points focaux ici, celui, n'est-ce pas, de l'Ituri et celui du Nord Kivu ici au studio, qui ont tous reconnu qu'il est difficile, n'est-ce pas, d'établir les liens entre les groupes armés et les différentes communautés qu'ils prétendent, n'est-ce pas, défendre. Vous venez du Sud Kivu. Est-ce que vous confirmez les allégations des deux points focaux qui sont ici au studio, donc l'abbé Aurélien Kambalé et madame Irène Baweka, ou au Sud Kivu, oui, les choses se passent autrement?
Oui, je dois saluer mes collègues points focaux avec qui on travaille depuis un temps. Nous faisons un travail de patriotisme, au fait. Et ce qu'ils ont dit n'est pas totalement vrai et n'est pas aussi totalement faux. Parce que nous sommes à l'Est, nous avons trois provinces, et il y a des spécificités pour chaque province. Quand j'ai suivi nos amis de l'Ituri, les problèmes communautaires vraiment se posent avec Apité. Et s'il faut même revenir sur cette notion de communauté, nous sommes en train de nous dire que c'est un problème vraiment, c'est une notion à problème, parce que nous avons 450 tribus ou ethnies en RDC, et moi je souhaite plutôt qu'on parle des ethnies ou des tribus, parce qu'avec les communautés, il y a toujours des tireurs de ficelles qui s'appuient sur ça pour développer telle ou telle autre espèce.
Est-ce que pour le site qui vous, on peut établir les liens entre les différentes communautés ou les différentes tribus et les groupes armés? Pour le site qui vous?
Oui, il y a certains groupes armés effectivement qui se disent protégés des communautés. Ça, c'est une réalité aussi, ce qui vous. On a des groupes qui se disent être là pour la défense des intérêts de la communauté. Et c'est pour cela que moi j'ai fustigé qu'on continue toujours à faire usage de ces concepts-là des communautés. Parce que nous avons les FARDC qui ont mission de défendre l'intégrité du territoire, de défendre la population. Mais quand vous avez, par exemple, certains groupes armés, quand on leur appelle à adhérer à tel processus et qu'ils mettent, on dit voilà, vous intégrez l'armée, vous devenez un militaire ou un policier au service de la nation, on vous met à telle province ou à telle autre, on voit certains refuser pour dire que non, nous sommes là pour protéger notre communauté. Et ça crée des frustrations, ça crée des problèmes.
Vous dites que les groupes armés, certains groupes armés disent qu'ils prennent des armes pour protéger leur communauté, mais est-ce que ces communautés se reconnaissent dans ces groupes armés? Est-ce que ces communautés disent qu'effectivement, ces groupes armés les protègent?
C'est ça aussi, j'allais en arriver. En fait, il y a une partie qui accepte cette thèse, et d'autres y voient une manière de fragiliser la cohésion au sein de cette communauté-là. Parce que quand vous, même lors des travaux, on a même soutenu qu'il y a le Rwanda, par exemple, qui manipule certains rwandophones pour dire qu'il va venir protéger, porter assistance aux rwandophones qui sont menacés, et que ces rwandophones eux-mêmes ont dit qu'ils ne veulent plus que désormais les Rwandais continuent à dire qu'ils viennent protéger, ils veulent le protéger parce qu'ils s'estiment être congolais et estiment que l'armée congolaise qui est là est censée est la meilleure et la mieux placée pour la protéger. Donc c'est une réalité vrai qu'on est en train de connaître aussi de Kivu, mais qu'on doit vite déconstruire parce que les ennemis de la paix ils tirent des ficelles pour exacerber les conflits entre les communautés.
Merci, Maître Néné Bintou Mdekereza. Voilà, il y a aussi une question qui vous est adressée, en fait une réflexion d'un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu Sud Kivu, et à laquelle vous allez réagir.
Abamungu Balibouza de Bukavu, en consultant les différentes communautés, les facilitateurs Uhuru Kenyatta semblent tourner la question de la crise de l'Est du Congo à une guerre interethnique, ce qui n'est pas le cas pour moi. Depuis des décennies, toutes ces communautés vivent en paix. Ce qui s'apparente à un conflit interethnique n'est que la manipulation de certaines ethnies par les États voisins, dont les Rwanda et l'Ouganda, et certaines entreprises multinationales qui profitent du chaos pour piller les ressources naturelles du Congo. Au Sud Kivu, par exemple, les Bashi vivent en paix avec les Bahavu avec les Barega, les Banyamulenge avec les autres communautés. Les actes isolés des leaders de certaines communautés ne doivent en aucune manière être assumés par le reste de ses membres. Uhuru Kenyatta devrait commencer par échanger avec Kagame et Museveni, ainsi que les entreprises multinationales qui profitent des minerais que les différentes milices exploitent illégalement au Congo. S'il y a des Hema, des Lendu, des Nande, des Hutu, des Banyamulenge et des Babembe armés, qui les arment, qui les entretient, qui les paye, où se réfugient-ils quand il faut face à l'armée nationale? Voilà les questions que devraient se poser les facilitateurs Uhuru Kenyatta. Bien qu'à des degrés différents, la guerre de l'Est affecte toutes les communautés ethniques, preuve que le mal vient d'ailleurs et que c'est par là que viendra la solution.
Maître Néné Bintou Mdekereza.
Oui, j'ai suivi le compatriote et je suis d'accord avec lui. Et je dois même le rassurer qu'on en a parlé avec les facilitateurs. Donc nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait un dialogue entre les groupes armés étrangers qui sévissent dans notre province ou même des provinces de l'Est avec leur pays d'origine. Et on a bien spécifié ces groupes-là pour le Rwanda, les FDLR, les CNRD. Ils doivent dialoguer avec le gouvernement rwandais. Pour le Burundi, on a cité le Red Tabara, on a cité aussi les FNL qui sont dans le sud-sud. Et donc pour nous, c'est autant pour l'Ouganda avec les ADF Nalu. Et on espère que si ce dialogue-là est fait de l'autre côté, ça peut être une solution de la crise au niveau de la province du Sud Kivu et même d'autres provinces dans lesquelles on enregistre l'activisme des groupes armés étrangers.
Alors, est-ce que vous pensez que les consultations qui ont été initiées hier ici à Kinshasa par les facilitateurs Uhuru Kenyatta avec les communautés locales, vous pensez que ces consultations peuvent aider la RDC à ramener la paix dans sa partie orientale?
A priori, c'est difficile parce que maintenant là que nous avons commencé ces consultations-là, on a appris qu'il y a des troupes kenyanes qui sont arrivées à Goma. La situation semble préoccupante de l'autre côté. Et donc, nous pensons qu'il y a l'option militaire qui est aussi également privilégié et que il y a des affrontements qui sont en train de se déplacer, il y a des communautés, donc la population en déplacement qui n'a pas accès aux soins humanitaires. Donc nous pensons que nous avons donné de notre côté des propositions et il faudrait que le gouvernement congolais, c'est lui le responsable, le premier responsable de la sécurité de ses concitoyens, puisse tout faire pour continuer à appuyer nos parts d'essai, à défendre les territoires, parce que pour nous l'air est grave.
Merci.
Et on doit trouver des solutions urgentes à la crise. Nous en avons appelé à la cessation immédiate des hostilités, au retrait sans condition des troupes pour que la population de l'Est puisse aspirer à la paix.
Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Madame Irène Voyuka, vous allez conclure. Hein. Comment vous entrevoyez la suite de cette situation sécuritaire dans l'Est de la RDC? Et si vous avez des recommandations à faire à l'endroit du gouvernement et des groupes armés, quelles sont ces recommandations? Ça sera votre conclusion.
D'accord, merci. Moi, j'entrevois la suite des consultations. Je vois une activité qui va aider à ce que nous puissions atteindre l'objectif qui est de ramener la paix à l'est du pays. Mais c'est très important que nous, Congolais, nous nous disions que on ne peut pas atteindre l'objectif. La paix ne retournera pas à l'est si nous-mêmes nous nous engageons pas, nous nous aimons pas, nous unissons pas pour aller vers cette paix. Et aussi aux groupes armés de déposer les armes, d'écouter la main tendue du chef de l'État qui est dit aux groupes armés congolais de déposer les armes et d'attendre le processus de PDDR, mais aussi qu'on tous nous puissions nous retrouver à Nairobi 3 afin d'échanger et que nous puissions réfléchir ensemble avec les communautés qui vont faciliter les groupes armés à déposer les armes, ainsi qu'avec les groupes armés qui vont amener leurs revendications, que tous autour d'une table nous puissions dialoguer et savoir comment nous allons vers cette paix pour le bénéfice et le développement de notre pays et surtout de ma province de l'Ituri.
Monsieur l'abbé Aurélien Kambalé, votre conclusion, quels sont les conseils, n'est-ce pas, à formuler à l'endroit du gouvernement congolais et les recommandations à formuler à l'endroit des groupes armés pour que la paix puisse revenir dans la partie est du pays? Ça sera votre conclusion.
Merci. Je dirais que pour pouvoir profiter de cette opportunité, il faudrait, moi je me situe à trois niveaux. Au niveau national, il y a des choses que nous devons faire de l'intérieur. On dit toujours « aide-toi et le ciel t'aidera ». Il est tout à fait anormal qu'on sente qu'ici à Kinshasa, il se passe des choses qui contrastent avec le désastre qui se vit à l'Est. Nous devons nous unir ensemble et nous unir réellement, pas seulement en théorie. Qu'on soit ensemble pour pouvoir faire face à l'ennemi.
Deuxième chose,
au niveau sous-régional, les États qui nous entourent et qui facilitent ces désastres ici doivent cesser. Et ça, les facilitateurs doivent aller vers ces états-là. Et enfin, au niveau international, il faut que le multinational et les grandes puissances s'impliquent sincèrement pour nous accompagner.
Merci, Maître Nene Bintou Moudekereza. Vos recommandations et vos conseils, ça sera aussi votre conclusion.
Oui, nos recommandations, c'est qu'il faut qu'il y ait cessation immédiate des hostilités et que notre gouvernement puisse continuer à appuyer nos phares d'essai, à bouter dehors l'ennemi, la société civile est derrière nos phares d'essai. Également, un appel à la société civile de Kinshasa, à plus de mobilisation, parce qu'on sent un tout petit peu relâchement de ce côté-là. Les problèmes de l'Est sont les problèmes du Congo tout entier, et que donc on doit tous nous unir pour continuer à manifester notre ras-le-bol pour dénoncer ces complots internationaux. Nous voulons la paix et nous devons demeurer en alerte maximale pour qu'aucun centimètre de notre pays ne soit cédé, pour que nos phares d'essai puissent continuer à batailler dans de bonnes conditions.
Merci.
Et que aussi la justice soit faite. On n'est plus là pour donner la prime aux belligérants. Tout ça est terminé. Il faut qu'il y ait la justice pour garantir la non-répétition des crimes dans notre pays.
Merci, merci à Madame Irène Vaweka, Maître Nene Bintou Moudekereza et Monsieur l'abbé Aurélien Kambalé d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Mimi Kindou qui était la technique et à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe, et à la présentation Guy Maté. Merci encore une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Okapi.